Yop, yop, le débat des gamers à Alex Kidd.
Yop, yop, le débat des gamers Donkey Kong.
Yop, yop, yop.
Ouais.
Salut, salut à tous, salut. Aujourd'hui, on va parler de la Super NES. Alors, pour parler de ça avec nous, on a Malcave.
Hello.
Ouais, applaudissements pour Malcave, bravo, bravo. Et on a Mouchou.
Salut tout le monde.
Et voilà, alors nous sommes, pour ainsi dire, et en toute modestie, spécialistes de la Super NES. C'est-à-dire, nous avons grandi avec, nous avons fait les plus grands, les plus incontournables jeux qui sont dessus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes que trois, finalement. Voilà, c'est vrai,
ceux qui savent.
Puis, on est des élitistes, hein, donc c'est ceux qui savent, c'est tout.
Bon, bah, je vais fermer ma gueule.
C'est... Bon, on va rien dire. Bref, on va commencer. Alors, comme d'habitude, on fait un petit tour de l'histoire, de comment on fait à chaque fois. Et là, donc, sur la Super NES. Et, pourquoi, finalement, Nintendo a sorti la Super Nintendo? Parce que la NES a quand même bien fonctionné. Et au final, pourquoi? Je vous pose la question.
Alors
là... Vous êtes des spécialistes ou pas?
Ah, pour t'amener le temps à la Mega Drive, de toute façon, voilà, hein.
Bon, déjà sorti 1990.
Au Japon.
Au Japon. Fille. Au Japon. Novembre 90. Mm. Donc, c'est petite introduction. Donc, elle est distribuée aussi en Corée du Sud, mais pas par Nintendo, par Hyundai. C'est assez marrant. Et elle s'appelle H-Boy. Voilà. Elle sort aux États-Unis en 91.
91.
Voilà. Ouais. Et en 92 en Europe.
En relooké aux États-Unis en... comme un tank.
Voilà.
Ouais.
Façon Hummer.
Magnifique. Donc, pourquoi sort-elle? Facile. C'est finalement, c'est pour rivaliser avec la NES qui était sortie en fait. Ouais, NEC lance le PC Engine en 1987 et Sega sa Mega Drive en 88. Donc deux consoles qui sont censées être à l'époque nouvelle génération parce que ce sont des 16 bits. D'accord.
Sauf que la PC Engine, c'est une 8 bits, mon ami.
Oui, c'est vrai que la PC Engine est une 8 bits, mais je dis ça mais parce qu'elle est sortie. Et parce qu'au final, c'est sûr, finalement, par rapport à Sega qui sortent cette console, hein, finalement. Par rapport à la Mega Drive qui commence à s'implanter sur le marché.
Et puis la PC Engine a beau être une 8 bits, elle faisait tourner des jeux que même les 16 bits Mega Drive Super Nintendo, il y en avait certains qui lui arrivaient pas à la cheville. Donc. C'était quand même ça aussi.
C'était une bonne console en général, voilà. La PC Engine, c'est vrai. Même si, c'est la console oubliée, hein, quand même, des 8 bits.
Parce que mal distribuée par chez nous, mais sinon, au Japon,
c'est ça, une valeur sûre. La distribution sûre. Chez nous, no comment.
C'est clair. C'est, voilà. Et en fait, donc pendant les premières années de la commercialisation de la Mega Drive, donc jusque, disons, la première année, hein, donc l'année 88, la NES, elle supplante quand même la Mega Drive. Je veux dire, la Mega Drive ne fait pas le poids. Et finalement, à la fin de l'année 88, grâce au graphisme amélioré, qui dépasse largement la 8 bits, hein, elle est couronnée de succès. Et voyant sa domination chuter sur le marché, Nintendo est contraint, en fait, un petit peu précipitamment, finalement, de créer une nouvelle console. Voilà, c'est tout simple. Ça a été poussé par la concurrence, quoi. Au départ, c'était pas prévu de faire la Super NES quand la Mega Drive est sortie, quoi.
Donc, bah, même dans la précipitation, ils ont pas fait les choses à moitié, quand même, hein.
Ouais, non, c'est vrai que c'est. On va parler un petit peu des caractéristiques un petit peu plus tard. On reste un petit peu dans l'histoire finalement de la Super NES. Alors, elle était sortie. La date exacte, est-ce que vous vous en souvenez? Au Japon.
Japon, 21 novembre 90.
Bravo. Alors là, je mets.
Wow. La Super Famicom.
C'est ça, Super Famicom.
Super Famicom, c'est 13 août 91, je crois, puisque c'est des États-Unis, non?
États-Unis, c'est en 91 et je pense que c'est en novembre aussi. En août.
Le 13.
13 août, bravo. J'ai une question, simple anecdote. Pourquoi on dit Famicom?
Côté peut-être familial, j'imagine.
Ouais, c'est Family Computer.
Bravo, bravo. Ah. Bravo. Fabuleux quiz, hein. Je tiens à dire, vous répondez à toutes les questions. Alors,
faut mériter notre paye, quoi.
Alors, combien elle coûtait? Combien elle coûtait, en parlant de paye?
Oh, alors là.
Je suis pas américain, donc je ne répondrai pas.
Ah, au Japon, la super
famille. Ni en yens. Ni en yens, aucune idée.
Bon. Je ferais du mal aussi.
Elle était à 25 000 yens, équivalent à l'époque de 1380 francs, donc de 210 euros.
Ah oui.
Donc c'était, dire bon, c'était ce que c'était. C'était le prix normal d'une console à l'époque, finalement. Donc, par contre, succès immédiat. La livraison au Japon de la Super Famicom, 300 000 unités, vendues en quelques heures. Voilà. Oui, et le dérangement, écoute, il faut quand même écouter que le dérangement était tel que le gouvernement japonais a émis une directive envers Nintendo pour les sortir en fin de semaine, pour les booster. Faut quand même.
Non, en fait, c'était surtout aussi, après, ils avaient sorti une directive pour Square Enix et toutes les grosses boîtes de ne sortir aucun gros jeu en semaine. Parce que les jeunes séchaient pour aller camper devant les magasins, donc voilà quoi.
C'est dingue. Et donc, la Super Famicom se vend mieux que toutes ses rivales. Il est con. Et au final, il devient leader du marché japonais et redevient leader, en fait. Donc voilà, le succès de la Nintendo est surtout dû, en fait, aux éditeurs tiers, finalement. Donc les grands éditeurs qui étaient en collaboration avec Nintendo, c'était Enix.
Square.
Aujourd'hui, c'est Square Enix, mais avant, c'était que Enix.
Il y avait Enix, il y avait Square aussi.
Il y avait Square
qui faisait Final Fantasy.
Voilà, il y avait Square, il y avait Konami. Bon, Konami qui est très connu, hein, et Capcom, ouais. Si c'était les principaux quand même. Voilà. Donc, quel prix pour la sortie en août 91 de la Super NES aux États-Unis?
Dans les 200 dollars.
Oh là là, 199 dollars.
Ah ouais,
voilà, c'est magnifique.
C'est beau, ça.
Voilà. Donc là, j'aime bien laisser le meilleur pour la fin, c'est-à-dire qu'on va entamer les jeux à la fin, parce que je pense que c'est là qu'on va un petit peu déchaîner les passions, entre guillemets.
Oui, surtout qu'on va partir de tous les côtés, je sens.
Ouais. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien.
Oui.
Voilà. Alors, en fait, voilà, comme je disais au début, c'est ils ont sorti la Super NES pour contrer la Mega Drive, finalement. La Mega Drive qui était, en fait, considérée, entre guillemets, contre une console cool, au final, avec des jeux matures. Je vais prendre qu'un exemple, c'est Mortal Kombat. Je veux dire, c'est un jeu mature avec des finishes, du sang partout. Nintendo ne faisait pas ça à l'époque.
Bah, Nintendo a toujours été très, très tourné vers les enfants jeune âge. Donc, exactement. Finalement, une grosse politique de censure, on va dire, et puis de faire attention à qui il visait et quel jeu il faisait, de manière à pas...
Laisser Capcom faire des probos Tector et tout, et sinon voilà. Nintendo, on fait du Yoshi et du Wario pour le plus méchant. Voilà.
C'est ça. Et donc justement, vu que ça jouait sur deux niveaux différents finalement, les parts de marché entre la Super NES et la Mega Drive sont égales en avril 92. Donc, et c'est en avril 92 qu'il y a un revirement de... Enfin, comment dire... qui a un revirement de situation en avril 92 et où c'est la Super NES qui s'implante en fait sur le marché sur le
ça
marché
de la pas à cause de Zelda 3.
Ben ça serait fait. En fait le gros défaut de si tu veux de ah putain, oh, c'est pas vrai. Le gros défaut de Sega, c'est que finalement sur Mega Drive, il y a pas d'emblème, il y en a qu'une, c'est Sonic au final.
Alors que sur Nintendo, il y en a plusieurs.
Voilà, il y en a beaucoup. Et c'est ça, je pense, plus que la sortie de Zelda en elle-même, c'était le retour d'une emblème. Parce que même s'il y a des jeux qui sont sortis, qui ont marqué l'histoire sur Mega Drive, je pense à Street of Rage, je pense à Golden Axe, on retient pas le perso principal. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, il n'y a pas de mascotte.
Bon, moi, voilà, c'est ça.
Moi, je dirais plus que ça tient... au fait que la Mega Drive, elle a pas le mode 7, et surtout 32 couleurs par écran contre 256, et puis un son 8 bits contre un son 16 bits. Donc,
voilà. Justement, les caractéristiques techniques, on y arrive, parce que c'est bizarre, parce que la puissance intrinsèque de la, c'est-à-dire la puissance du processeur et de la RAM, est plus puissante sur Mega Drive, mais finalement le rendu,
pourtant la Super NES fait mieux.
Voilà, le rendu graphique est meilleur sur Super NES. Bref, on va continuer un petit peu, et justement je voudrais parler de la ligne de conduite qui a changé à cette époque-là de Nintendo. Il faut savoir que la NES, pendant qu'il y avait la NES sur le marché, Nintendo y maintenait un contrôle exclusif sur les titres sortis sur son système. C'est-à-dire que chaque jeu qui était produit, il fallait obligatoirement l'accord de Nintendo. Les développeurs n'avaient pas le droit de sortir plus de 5 jeux par an. Par exemple, c'était des choses assez rigides finalement. Et un fournisseur, un développeur n'avait pas le droit, s'il développait sur Nintendo, d'aller ailleurs. C'était interdit. Donc Capcom était sur Nintendo et ne pouvait pas aller ailleurs. Et le premier qui a développé à la fois sur Nintendo et sur Sega, ce fut Acclaim. Défunt Acclaim d'ailleurs, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc voilà, qui commençait à sortir des jeux sur les deux plateformes. Ouais. Et finalement, petit à petit, mais de manière, disons, plus discrète, c'est Square et Capcom qui ont fait de même. Qui se sont diversifiés et qui ont sorti sur les deux. Et donc, c'est le premier revirement finalement d'idéologie chez Nintendo. La deuxième, et beaucoup plus significative au final, c'est les jeux Nintendo étaient censurés. C'est comme ça. Et le jeu, en fait, qui a déchaîné un petit peu la passion, c'est Mortal Kombat au final. Qui était sorti sur arcade en 92 et qui était un succès inattendu. Parce que c'était vraiment un délire, quoi, au départ, finalement. Et voilà, il y avait des éclaboussures de sang partout, des scènes de fin de combat, des démembrements, tout ça. Et la version Mega Drive, elle a gardé ce côté gore, et pas la Super NES. Et c'est pour ça que le Mortal Kombat, c'est 3 fois plus vendu sur Mega Drive que sur Super NES. Ça a été un manque à gagner, finalement.
Ah bah, ils ont été perdants. À vouloir trop censurer, à un moment donné, on se heurte à certaines choses.
Voilà. Et conclusion, il y a eu la création, enfin les sénateurs américains Herb Kohl et Joseph Lieberman, tu as vu, c'est un peu comme c'est documenté tout ça quand même, convoque une audience au congrès le 9 décembre 1993 pour examiner la commercialisation des jeux vidéo aux enfants. En fait, il y a une loi sur ça, légifération, une loi, et donc Nintendo se dit, il n'y a plus besoin de nous-mêmes censurer les jeux, parce que si les jeux sont à censurer, c'est la loi qui le fera. Ce n'est plus nous. Donc, Mortal Kombat 2 sort identique sur la Mega Drive.
Sur les deux.
Et sur la Super NES. Voilà. Et depuis ce jour-là, Nintendo ne censure plus ses jeux, et finalement, tant mieux, je trouve, moi, finalement.
C'est clair.
Donc, c'est un petit revirement de situation, au final, qui en est un gros. C'est un petit événement qui a changé un petit peu le cours de l'histoire, parce que ça, Nintendo n'aurait sûrement pas été premier. Voilà, je pense, c'est mon avis. Vous en pensez?
C'est bien possible.
Non, je pense pas que ça aurait joué à ce point-là.
Tu penses pourquoi?
Oh, parce que ils ont quand même un gros catalogue, quoi. Pas énormément de jeux très matures, donc.
Ouais, c'est sûr, mais enfin, oui, tu as raison en fait. Moi, mais ce que je voulais dire, c'est finalement que Nintendo a fait le virage qu'il aurait dû effectuer plus tôt, je pense. Voilà ce que je voulais dire.
Ça, ouais, c'est sûr que de toute façon, ça servait à rien de s'auto-censurer comme ça, voilà, de se limiter.
Je pense, hein, je pense, c'est bête. Ouais. Voilà. Je pense, voilà. Et puis finalement, la Super NES, qui était, on va l'expliquer tout à l'heure, moins puissante que la Mega Drive, au final, elle dure finalement assez longtemps quand même. Et pendant longtemps, elle est sur le marché.
Oui, puis énormément d'accessoires sur la Super Nintendo aussi qui ont eu leur succès à tour de rôle actuellement.
Il faut savoir quand même, je me demande, il faut que vous sachiez quand est-ce que s'est arrêtée la production de la Super Famicom.
Ça dépend l'endroit.
La Super Famicom, donc le Japon.
Japon, 2003, septembre.
Bravo. Septembre 2000. Est-ce qu'il faut se rendre compte quand même, la Play 2, c'est 2 générations après. C'est quand même, moi je trouve ça assez hallucinant, quoi.
Ouais. Elle a tenu extrêmement longtemps, 13 longues années, quasiment.
Voilà, c'est peut-être une des consoles, peut-être avec la PlayStation 2 qui ont duré le plus longtemps finalement, je pense. Je pense.
Perso, j'ai toujours la mienne.
Ben, moi aussi j'ai la mienne. Et donc,
pareil.
Voilà. Et finalement, quand les 32 bits sont arrivés, donc Sega avec sa Saturn et Sony avec sa PlayStation.
PlayStation.
Voilà, finalement, les jeux de la Super NES faisaient encore office de très bons jeux, et même graphiquement. Et je ne prends qu'un exemple, novembre 1994. Quel jeu?
Attends, 94.
Ouais.
Je crois qu'on va taper dans les studios rares.
Ouais.
Avec
Donkey Kong.
Ouais. Kong.
Donkey Kong Country, qui était Country. Quand même graphiquement qui est magnifique. Faut dire ce qui est. Enfin, moi, pour une Super NES, il est beau.
Ouais.
Voilà, des graphismes et puis une musique de haute qualité. Mais bon, ça c'était l'apanage de la Super NES en général.
Et puis un peu plus tard, il y aura eu aussi Killer Instinct, toujours avec Rare.
Ouais.
Toujours selon le même procédé de modélisation 3D de perso sur des gros ordinateurs et ensuite les retransformer en sprite 2D et les digitaliser sur Super Nintendo. Et
c'est
pour
ça.
Un bon rendu.
Ouais, c'est ça, exactement. Un boulot de fou.
Ah ouais, c'était fou. Mais d'ailleurs, dans les derniers 45 jours de l'année 94, Donkey Kong Country se vend à 6,1 millions d'exemplaires. C'était le jeu le plus rapidement vendu de toute l'histoire à l'époque.
Ouais.
Donc voilà, c'était pour les 32 bits qui viennent de sortir, c'était voilà quoi. C'était ouais, voilà.
Attention, on est toujours là.
Voilà.
Et des jeux comme ça, il y en a plus maintenant.
Non.
À l'époque, il y avait encore des limitations techniques et les développeurs étaient obligés de se sortir les doigts pour faire des bons jeux, vraiment de se creuser. Maintenant, ils ont beaucoup de puissance et ils cherchent pas grand chose, quoi, en fait. On a plus de jeu qui va sortir comme ça, qui va te faire halluciner sur les capacités de la machine, faire, mais j'aurais jamais cru qu'elle pouvait sortir ça.
Et moi, tu vois, même si c'était une belle révolution graphique, moi, actuellement, je parle. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, on cherchait toujours plus beau, mais allez, maintenant que les jeux sont quand même de toute manière assez beaux sur les nouvelles génération, moi ce que je recherche actuellement c'est plus une originalité dans le concept du jeu que des graphismes, et à mon avis les développeurs l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils tirent plus la console jusqu'au bout, je pense, c'est mon avis.
Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'ils exploitent pas par exemple la Wii qui a un nouveau gameplay?
Parce que la Wii est inexploitable, c'est tellement imprécis que, enfin, je sais pas, à l'heure actuelle c'est trop imprécis. Voilà.
Non, c'est pas vrai.
Tu le trouves?
T'es de mauvaise foi, t'aimes pas la Wii et tu dis du mal.
J'ai la Wii, et je peux te dire que je joue à Mario Kart, ce sont des bons jeux. Mais ça révolutionne pas, je suis désolé. Et puis Sony qui va sortir son, j'appelle ça son sextoy.
Son clone de la Wii.
Ah, c'est honteux, pour moi c'est honteux. Puis Natal, à mon avis, ça va être un échec pour moi. Enfin, je pense.
C'est honteux, mais Sony ne fait que copier Nintendo depuis des années.
C'est ça.
Rappelle-toi le pad, voilà, le joystick analogique N64, apparition du pad analogique.
Et les boutons L et R pour revenir à la Super Nintendo.
On se voit arriver la même chose sur. Oh, ça c'est bizarre, nous vous faisons une nouvelle génération de manettes avec deux joysticks au milieu sur le pad PlayStation. D'où ça peut bien venir?
Sachant que le revers du pad DualShock est sorti le lendemain de la sortie de la Nintendo quand même. Ils ont vu ça, ils ont fait preuve. Donc c'est un peu honteux. D'ailleurs, on va parler de Sony, hein, finalement. Parce que, finalement, c'est bizarre, mais l'histoire de Nintendo et de Sony sont très liées.
Ouais.
Et pourquoi?
Par un petit processeur son, par exemple, pour la Super NES.
Oui, mais comment que ça?
En fait, c'est le processeur son, ça devait être tout ce qui leur restait d'un travail en commun qu'ils avaient. Que Nintendo prévoyait de sortir une console sur support CD, qui était tout nouveau à l'époque. Et ils étaient donc en business avec Sony, parce que Sony maîtrisait la technologie du CD. Mais en fait, au bout d'un moment, je crois qu'ils ont abandonné, parce que ils voulaient pas partager le business avec Sony. Et puis en même temps, ils se sont dit, les cartouches, c'est bien, on peut bien contrôler la production, le piratage, il n'y a pas de problème, on paye des royalties sur les cartouches, et... Donc ça leur était pas très profitable, en fait.
Ils auraient dû, parce que quand la
PlayStation. Mais oui, en fait, ouais.
Voilà. Et Sony.
Et puis la Nintendo 64 en face.
Ouais.
La Nintendo, ils ont bien dû s'en mordre les doigts. Mm.
Ouais. Ils ont eu une phase noire avec la 64 et la GameCube, hein. Ils ont eu du mal, hein. On a eu peur avec la Nintendo finalement.
La Cube, c'était pas si mal que ça, moi.
Voilà, la Cube, j'aimais bien. Et ouais, ils ont eu des ventes satisfaisantes.
Depuis la 64, bah, je l'avais, j'avais pas été, enfin, moi, j'ai apprécié, hein. Et puis, c'est pas toi qui devrais dire le contraire, hein, monsieur, Ocarina of Time.
Ouais, c'est moi.
Là!
Je me suis éclaté. En fait, à 64, le truc, c'est le manque de jeux, quoi.
Exactement.
Parce que si tu regardes, voilà, rétrospectivement sur la NES, ou la Super NES, des jeux, t'en as des centaines, des bombes. Que la 64, t'as vite fait le tour, quoi.
Et à la même époque, sur PlayStation? Pour revenir sur le marché de la concurrence, PlayStation à l'époque de la 64 sortait des jeux qui ont fait la légende, les Final Fantasy, les Metal Gear, les Gran Turismo, les Colin McRae Rally, les il y en a à l'appel, Resident Evil, mais bon.
Grâce justement au support CD. Et qu'est-ce qui fait que tu as vu certaines claques dans certains jeux plus que la 3D, etc. On a eu un gros bouleversement à l'apparition des cinématiques. Les cinématiques, ouais, il a fallu le support CD.
C'est ça. Ça a été donc, voilà, c'est vraiment l'histoire finalement que Nintendo, finalement, en fait c'est ça, c'est Nintendo qui avait un petit peu pris Sony pour des cons finalement. C'est pas contraire, et sur le moment, voilà, et ils ont lâché le projet, parce que même la console de Nintendo devait s'appeler même PlayStation.
C'était déjà le nom du projet. Ouais.
C'était le nom du projet. Donc, quand ils se sont détachés, PlayStation a fait son IA et a conçu sa console, finalement, qui était super puissante.
Seul.
Et ils ont fait...
Une console super puissante, et pourtant, je me rappelle, petite anecdote, un jeu qui est paru sur les deux et qui n'était pas à la base un jeu console. Nous avons eu la sortie d'un magnifique Doom sur Super Nintendo, qui graphiquement était encore plus moche que la version PC, certes.
J'y ai joué, hein. Je l'ai fini, et c'était vraiment, ça faisait mal à la tête.
Sur un point de vue sonore.
Super Nintendo,
celui de la Super Nintendo, sur le plan sonore, était mieux réussi que la version PlayStation. Bien mieux. Le son était de meilleure qualité.
Moi, je peux pas juger, j'ai pas joué Doom sur PC, c'est tout, donc. J'en connais l'existence.
Ma version préférée à l'époque, c'était sur 3DO.
Ah. Moi, j'ai jamais eu la console. 3DO, c'est cette console avec la manette bizarre, là.
Une console Panasonic avec une manette, t'avais une croix de direction, start, select, trois boutons alignés, deux gâchettes, et par contre, sur la console, tu branchais qu'une manette. Et par contre, entre L et R, t'avais un port pour brancher une autre manette. Tu branchais les manettes en réseau. Et en bas de la manette, tu pouvais brancher ton casque et régler le volume.
C'est pas con, c'est vrai.
Des options professionnelles déjà qu'ils avaient à l'époque, qui n'ont jamais été reprises, mais bon.
Ouais
c'est vrai, ça n'a jamais été repris. Vrai. Bon, on va revenir un petit peu sur...
Super Nintendo.
Super Nintendo. La Super Nintendo.
La reine des consoles. Alors même à l'époque, on disait même pas jouer aux jeux vidéo ou machin, on disait Nintendo.
Ouais.
C'est quoi Nintendo?
C'est clair, carrément.
Oui.
C'était ça. C'est clair. Et donc, on va passer maintenant à une autre partie, un peu plus rébarbative, mais finalement qui va nous permettre de comprendre le succès de la Super Nintendo. C'est les caractéristiques graphiques. Enfin, les caractéristiques techniques en général, en fait. Donc, il faut savoir que je vais pas donner les chiffres parce que c'est rébarbatif. Voilà, c'est du 16 bits, 65C, 810 cadencé à 3,58, 2,68 ou 1,79 MHz. Voilà, c'est nul de faire ça. C'est nul. Disons que le processeur était moins puissant que celui de la Mega Drive. Quelle était la conséquence? C'était que sur Mega Drive, l'animation était en général plus fluide. Et pour s'en rendre compte, il y a Mickey Mania qui était sorti sur les deux supports. Et on peut facilement s'en rendre compte, l'animation de Mickey est beaucoup plus fluide sur Mega Drive que sur Super Nintendo.
T'as un meilleur FPS.
Hein?
T'as un meilleur rapport sur image seconde.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que s'il avait dû sortir sur Nintendo, sur Super NES, un Sonic, ça aurait pas pu, quoi. la console n'était pas assez puissante. Le scrolling de la Super NES était mieux, de la Mega Drive était plus complet et plus puissant, donc les Sonic pouvaient tourner facilement. Voilà.
C'est ça qui a poussé justement les développeurs à créer cette mascotte qui court très vite. Parce que ils ont réfléchi, ils ont fait notre machine, elle peut pas afficher autant de couleurs que la machine d'en face. On n'a pas un son aussi performant. Qu'est-ce qu'on a de mieux en face? On peut faire défiler des écrans très 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 vite. Donc voilà, ils ont tout joué là-dessus et ils ont fait ça bien.
Ouais. Ils ont fait ça bien, d'autant qu'il faut pas oublier que la première mascotte de Nintendo n'était pas Sonic et ils avaient joué la première mascotte de Sega, pardon, n'était pas Sonic et ils avaient misé sur une mascotte qui ressemblait beaucoup finalement au jeu de Nintendo. C'était Alex Kidd. Je sais pas si vous
vous rappelez. C'était pas du Sonic du tout, hein. C'est clair. Voilà. Au départ, c'était de la plateforme, gentillette, en tapant les ennemis et tout, machin. Et petit à petit, ça a évolué pour devenir limite jeu de rôle aventure, quoi. Aventure action, plateforme. Donc c'est clair que c'était vraiment plus lent qu'autre chose, quoi.
Ouais. C'était un bon jeu, je me trouve, Alex Kidd, sur Master System. C'était pas mal. Et finalement, Sonic a été élevé à la place de mascotte parce que ça collait. Je trouve que l'image de Sonic collait vraiment à l'image de la Mega Drive. Comme je le disais, entre guillemets, c'est une console cool, la Mega Drive, des jeux matures, des beat'em all en pagaille. Et finalement,
moi, je dirais plus agressif.
Oui, agressif. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Et donc, quand on a vu Sonic, ce hérisson super rapide, finalement, c'était la mascotte idéale, je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le jeu en tant que tel, je pense qu'il arrive pas à la cheville de Super Mario World. Pour moi, niveau gameplay, c'est comparable, quoi. Je sais pas.
Non, c'est beaucoup moins riche.
C'est beaucoup moins riche.
Mais c'est plaisant, c'est un autre type de fun parce qu'en fait, tu réfléchis moins, c'est plus dans l'action, dans l'adrénaline. C'est plus rapide.
Même sur la durée. Sonic ne tient pas face à Super Mario World. Trop cool.
Pour en revenir aussi à ce que je disais que Sega c'était plus un truc agressif, faut se souvenir des pubs de l'époque. C'était avec un espèce de gros punk, un gars super baraqué avec une grosse crête blonde et habillé avec des épaulettes à la canne de survivant et tout. Il venait dans un gros hangar, c'était glauque à chaque fois. Il jouait à un jeu. Il s'énervait sur le jeu, il se faisait me défoncer, et à chaque fois, c'est « Ouais, Sega, c'est plus fort que toi ».
C'est vrai, ouais.
C'était là. Le truc à l'époque, c'était bien agressif. Le gros baraqué qui se fait défoncer par le jeu pour dire « Ouais, c'est du jeu pour... » Tu vois, les gros durs, là, nos jeux, ils les cassent en deux. Là, on n'est pas des rigolos comme en face.
Mais bon. Sauf que la Super Nintendo, il y a quand même eu des pubs, comment dire, assez magistrales sur les jeux qu'ils ont fait. Mais c'est pour ça, il fallait voir à l'étranger.
Eh ouais.
Ouais, c'est vrai. Clair. C'est vrai.
Fallait pas chercher.
Que la véritable publicité sur le jeu vidéo, sur tout ce qui est France, Europe, c'est quand même un peu plus récent, comme d'habitude, les derniers servis en général.
C'est clair. C'est les pubs de PlayStation qui sont surtout. D'ailleurs, la pub de PlayStation qui était incompréhensible. On comprenait rien. C'est un nouveau monde et tout. Il y avait des trucs comme ça. C'était
de David Lynch.
Voilà. Alors, pour revenir justement dans la puissance, alors, il y a quelque chose d'assez bizarre finalement, c'est que la puissance de la Mega Drive est supérieure à la puissance de la Super NES, mais qu'au final, les jeux Super NES sont plus beaux que les jeux Mega Drive. Alors, pourquoi? On en a déjà un petit peu parlé, Mouchou l'a dit, Malkav aussi, c'est que finalement, la Super NES peut afficher 256 couleurs.
Ouais.
Voilà. C'est
simultanément à l'écran, on veut dire.
Voilà. La meilleure affichage et
sur une palette de voilà. La Mega Drive, c'est 32 couleurs par écran.
Puis le truc dont on est obligé de parler, c'est Super Nintendo, le mode 7.
Ah, carrément. Voilà. Un simili 3D, on peut appeler ça comme ça.
Oui, grosso modo.
En fait, c'est des routines déjà installées dans les processeurs de la console qui lui permettent de gérer en hard. Donc, c'est la machine qui gère, c'est pas les programmeurs qui ont besoin de programmer un algorithme pour faire ça. C'est faire des rotations, faire que quelque chose tourne à l'écran ou quelque chose zoome vers l'avant ou l'arrière. Et il y avait encore un troisième truc, il y avait trois trucs dans le mode 7. Et ça, c'est clair que ça aidait beaucoup les programmeurs, ça apportait du relief dans les jeux. Des sensations jamais vues quoi auparavant.
Ah bah,
faire des Doom justement, des Wing Commander, voilà, des trucs.
Sans ce mode 7, on n'aurait pas vu effectivement des Doom, on n'aurait pas vu arriver.
Mario Kart.
Mario Kart, un F-Zero, on n'aurait pas vu arriver un stage de Super Protector en vue de dessus, et j'en passe.
Pilot Wing.
Bien des jeux et bien des effets spéciaux dans des jeux.
Oui.
C'est ça. Et ce qu'il y avait de particulier aussi au graphique sur la Super NES, c'était qu'il y avait 4 plans de scrolling possibles en même temps, alors que sur la Mega Drive, il me semblait qu'il n'y en avait que 2, si je dis des bêtises.
Non, ça, c'est pas possible. Parce que Thunder Force 4, les scrollings de partout, là, c'est, ça donne le vertige.
Ah d'accord, ben voilà, tu vois, c'est bien d'avoir...
C'était peut-être inverse, alors. You lose.
Bon, en tout cas, Super NES, il y a 4 plans de scrolling. Voilà. Alors maintenant, finalement, la force de la Super Nintendo, hormis ses couleurs, c'est le son. Et si on peut dire finalement, c'est là que le fossé se creuse entre la Super NES et la Mega Drive, parce qu'il faut le dire, le son de la Mega Drive est très, vraiment très cru. Hein.
Ouais.
Ouais. Brut de décroche.
Il n'était pas pourri, il était cru. C'est différent.
Ouais.
Comme on l'a expliqué, c'est Sony, je crois, qui s'est occupé du son.
Oui, bah, c'est une puce 8 bits Sony SPC 700 stéréo 8 canaux.
Voilà, pour les connaisseurs.
Et la Mega Drive, c'est un pauvre son 8 bits.
Ouais,
on avait 30, je pense.
C'était. Ah,
c'est un tel point que quand la console est sortie, moi j'ai été habitué au bip bip de la NES et je sifflotais mes musiques des bip bip de NES que j'avais entendu des heures durant en jouant aux jeux NES. Mais quand la Super Nintendo est sortie, les jeux comme Zelda ou Actraiser ou Castlevania, on en était à enregistrer les musiques sur cassette audio pour c'est les ça. Écouter non-stop.
Oui, je confirme.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que en plus de cette qualité des sons, voilà, il y avait les effets acoustiques. Ah, ouais, les compositions.
Oui, on a eu les premiers, je crois, des premières voix digit aussi. On a eu des voix enregistrées.
Il y a eu
de bonne qualité, quoi. Vraiment, c'est de bonne qualité, c'est ça.
C'est vrai que sur NES, les voix digitalisées, c'était Ganon dans le 2. Quand tu dans Zelda 2, quand tu crevais, il y avait Ganon comme ça, avec une sale voix digitalisée, ça faisait un peu pitch.
Bah, disons que tu partais en courant, quoi.
C'est ça.
Mais pour aller rire, parce que t'avais peur.
Ben, il faut quand même créer les caractéristiques. Tu peux parler des accessoires, parce que finalement, la Super Nintendo, il y a eu d'innombrables accessoires qui sont sortis, certains utiles et certains inutiles, hein, d'ailleurs.
Donc, certains encombrants, je dirais, surtout.
Aussi. Donc, le premier, pour rester dans l'optique de la NES, finalement, c'est le Super Scope qui était sorti, en fait. Le pistolet optique de la console, quoi. Alors,
pas très pistolet, finalement.
Oui, voilà.
Parce que vu la taille de l'engin, se retrouver avec un bazooka à mettre sur l'épaule, pas très discret.
Non, voilà. Et il était fourni avec une cartouche de 6 jeux. Voilà. C'était pas mal. Donc bon, on va pas en dire plus, hein, c'est un zapper, quoi. Il n'y a pas... Par chose assez originale, c'est la souris.
Oui.
La souris qui était sortie pour utiliser avec Mario.
Mario Paint. C'était bon, ça.
Bah oui, puis est-ce bien sur Mario Paint qu'il y a aussi un système musical qui est dessus?
Oui. Exact.
Parce que ce système musical, il y a des gens qui l'ont vraiment exploité, qui ont fait des trucs de malade dessus. Où on retrouve des thèmes de jeux vidéo, voire même des musiques bel et bien connues, et on retrouve les airs repris et de manière plus que bien faite sur le système. Donc ça avait été assez extraordinaire, ça.
Il y a même un autre jeu utilisé, c'était Wonder Project. Je sais pas si vous l'avez connu.
Voilà, non.
C'est une souris qui pose bouton. Alors, autre accessoire finalement, et pour moi qui c'est un accessoire qui est arrivé de toute façon en Europe, c'est la Super Game Boy quand même.
C'était bien pratique, ça.
Oui.
Plutôt beau. En plus, ça permettait de jouer, en fait, au jeu de Game Boy sur la télévision. Voilà, c'est facile à expliquer. C'était une sorte de grosse cartouche où dedans, on pouvait mettre une cartouche de Game Boy et regarder, et jouer à la télé, quoi. Voilà. Et ce qu'il y avait de bien, c'était d'abord que, bon, on pouvait jouer à la télé en grand, c'était bien, mais aussi que ça utilisait une palette de couleurs. Je sais pas si vous vous en souvenez. Les jeux de Game Boy étaient colorés. Les jeux de Game Boy étaient colorés.
Ouais, tu les colorisais. Au lieu qu'ils soient, c'était en ton de, sur Game Boy, en fait, vert noir, et là, tu pouvais choisir de mettre en ton rouge ou en ton, noir, blanc.
Ouais, il y avait une palette de couleurs à appliquer, ce qui fait que ça changeait un petit peu l'aspect. C'était pas mal.
Et après, sur la fin, ils sortaient des jeux qui étaient comment finalisés pour le Super Game Boy, qui sortaient vraiment en version colorisée avec un fond d'écran.
Eh ben, justement, Pokémon était sorti avec Pokémon bleu et rouge, était sorti avec les bords de l'écran qui étaient des Pokéballs, genre des trucs comme ça.
Ouais.
Ouais. D'ailleurs, ce principe a été repris plus tard, puisque on a retrouvé un accessoire du même genre sur la GameCube.
C'était quoi?
Avec Pokémon Coliseum, ils avaient fait...
En fait, sur la GameCube, tu levais un des capots inférieurs sous la machine, et tu mettais donc un système qui rajoutait, on va dire, 2 bons centimètres de hauteur à la console, mm-hmm. Et c'était, au lieu d'une cartouche, ça faisait en fait comme...
une extension pour les jeux Game Boy Advance. Oui,
pour pouvoir mettre les jeux Game Boy Advance.
Et je savais...
Ouais. Ouais, avec un mini DVD à faire tourner dans la machine, et que j'ai là aussi d'ailleurs tout le temps.
Pareil, comme le Super Game Boy, il est toujours au chaud.
Voilà.
Bon, le Super Game Boy, c'était quand même... c'était pas une révolution, mais c'était vraiment un accessoire qui avait été très utile et finalement très très vendu.
Bah forcément, c'était super confortable. En plus, bon, comme la Game Boy, déjà, elle s'est vendue comme des petits pains et il y avait vraiment de quoi. Après, pouvoir jouer à tes jeux, tu joues Game Boy, tu joues quand tu veux, où tu veux, et là tu peux y jouer chez toi, tu continues ta partie, et sur ton écran de télé, dans le sofa, c'est vraiment...
Pas de pile ni quoi que ce soit.
Voilà.
Ouais. Ah, c'est vrai. Donc, après il y a aussi des adaptateurs qui sont sortis, donc des adaptateurs qui permettent de jouer à des jeux américains ou japonais. Voilà. Mm. Bon, c'est assez classique finalement ça.
Dont le légendaire AD29 Turbo.
Ah, c'est comme ça.
Oh, mais celui-là, le légendaire.
Ah ouais.
AD29.
Je me souviens qu'à la sortie, en fait, il y avait des adaptateurs pour voilà, et au fur et à mesure, ils sortaient des jeux qui étaient protégés. Donc les gars étaient obligés de sortir à chaque fois des nouveaux adaptateurs. Et il y avait un jeu qui était sorti avec une protection particulièrement balèze, qu'aucun adaptateur n'arrivait à faire sauter. Et c'est bête, tout le monde le voulait, c'était Dragon Ball Z 2, la légende de Saiyan en Jap.
D'accord, ouais, ouais.
Je me souviens qu'il y avait un pote qui avait déboursé pour l'avoir 1000 francs. Il avait acheté le jeu 600 francs et l'adaptateur 400 francs.
Ah ouais.
Il fallait en vouloir quand même, il fallait être motivé. Mais c'était l'AD29 Turbo, celui-là est toujours d'actualité, il fait passer tous les jeux.
D'accord, fallait avoir les sous. Plus que l'envie.
Voilà. Maintenant, il ne fait rien, par contre.
Ah, ben voilà, il a tout dépensé ce jour-là. autre accessoire qui n'a jamais vu le jour chez nous et dont on a déjà parlé, c'est le Satellaview. C'était sorti uniquement au Japon. C'était un accessoire qu'on fixait sous la console et qui permettait de télécharger les jeux. On en avait parlé sur la dématérialisation.
Ouais.
Oui.
Et donc pour l'équivalent de 7,50€ les jeux. Donc c'était pas mal. Et c'était grâce aux signaux TV de la chaîne satellite japonaise ST Giga.
D'accord. Voilà. Ouais.
Donc c'était voilà, rien à dire, hein, voilà. Rien de spécial, hein, comme on l'a déjà, en plus on l'a déjà expliqué, donc on va pas.
On a oublié aussi un petit accessoire qui pouvait être sympathique pour les gamers qui aimaient bien le côté arcade. Le Super Advantage,
Des
énormes pads avec un grand gros joystick et des boutons colorés tellement gros que si on n'arrivait pas à appuyer sur le bon, il fallait vraiment avoir quitté un opticien rapidement, quoi.
Carrément.
Donc,
ouais, vas-y.
Très sympathique, tout simplement aussi, parce que sans avoir à critiquer ou à dire quelque chose contre nos chers amis japonais qui nous gâtent quand même au niveau jeux vidéo. La manette de la Super Nintendo, nous sommes vus arriver une manette relativement petite quand même.
C'est vrai.
Et même si elle avait un certain confort, elle était bien pensée. Les boutons LR, etc. bien pensés, mais une manette petite. D'ailleurs, on a vu déjà la N64 après par la suite, et surtout j'ai envie de dire la Xbox, l'apparition enfin de pads un petit peu plus adaptés aux mains européennes. Mais le pad de la Super Nintendo à l'époque était vraiment pas forcément très confortable. Donc le Super Advantage, pour les frustrés, c'était pas mal.
Ils étaient beaucoup frustrés alors.
Et très frustrés. Mais là, de suite, ils pouvaient beaucoup plus se défouler le côté arcade.
Ouais. Bah, je pense qu'on a fait... Il y en a beaucoup d'accessoires. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On m'a quand même signalé le lecteur CD qui était sorti. C'était un port extension situé, une fois encore, en dessous de la console, qui permettait de brancher un lecteur CD à l'image de la Mega CD, en fait.
Oui.
Alors, le projet était nommé comment ?
Non,
je ne sais pas.
Super Nintendo PlayStation.
Eh ouais.
Mené en collaboration avec Sony et Philips, il fut abandonné suite aux différends entre les deux sociétés nippones. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Voilà. Donc Philips de son côté lança sa propre unité CD, le CDI. Voilà. Donc ouais, grâce à l'accord de...
On fait un Zelda dessus, mais affligeant.
C'est ce qui paraît, ouais.
Oui, c'est pas affligeant que je retiendrai.
Attends. C'est même 3 épisodes de Zelda qui sur ce support CD.
La trilogie de l'horreur.
Ce sont d'ailleurs les 3 seuls jeux de la série à ne pas avoir été supportés officiellement par Nintendo.
Ah, ils auraient pu être supportés par personne.
Et vous y avez joué parce que j'ai jamais pu y jouer.
Ah non, mais j'ai pas voulu y jouer non plus.
Moi j'ai vu tourner et j'ai pas voulu y jouer.
Ah merde, j'aurais bien aimé quand même.
Non, tu te serais coupé une main à la place.
Oh là là, dommage. Bref, je pense, voilà, donc après, on va juste vite fait les énumérer. Il y a le SAF Family Turbo, c'est un adaptateur qui permet aux cartouches de jeux spécialement adaptées, presque de la taille Game Boy, des cartouches créées par Bandai, qui peuvent se mettre sur cet adaptateur et marcher. Il y a le Super Multitap, donc pour jouer à plusieurs manettes en même temps, enfin...
Voilà. Pour jouer à Bomberman.
Exact. Oh là là, d'ailleurs Bomberman, tu as oublié.
Non mais ouais, tu peux pas parler de la Super Nintendo sans évidemment mentionner le multitap pour jouer à Bomberman, parce que là quand même.
C'est clair. Mais d'ailleurs, on va passer directement à la dernière partie qui va être certes grand n'importe quoi, mais qui va finalement être la meilleure, c'est-à-dire les jeux. Donc on va commencer par Bomberman. Alors bon, Mouchou, j'ai compris que tu avais joué, mais Malcaf, t'as quoi, Bomberman?
J'ai fait le 2, je crois, oui. Il me semble. Le Super Bomberman 2, en tout cas.
J'ai tous fait sur Super, mais préféré le premier. Et c'est toujours le meilleur Bomberman de tous les temps, à mon avis, à l'heure actuelle.
C'est un addictif, ce truc.
Ouais.
Complet.
C'est dingue.
En multi, ça tourne à l'hystérie, directement.
Ah ouais, non mais carrément.
Oui, enfin, surtout l'attrape manette de l'autre pour gagner, parce que ça fait 3 fois qu'il te crève d'affilée.
J'adore ce jeu.
Ben moi, c'est pas mon préféré. Et si j'avais, en fait, à dire quel est mon jeu préféré sur Super NES, j'hésiterais entre 2.
Sur ce que tu dis.
J'hésiterais entre 2. Alors, j'ai un top 10 qui est très, mais bon, il faut en choisir. On va en choisir 2 chacun. Pour moi, c'est d'abord Super Mario World. Personnellement, le premier.
Oh, facile, le jeu le plus vendu sur la
Terre. Et ouais, mais c'est mon jeu préféré aussi. Oh. Et deuxièmement, un jeu qui n'est pas que sorti dessus, mais c'est si tu veux, la Super NES, j'étais vraiment petit quand je l'ai eu. Et finalement, j'ai pas eu forcément le temps de l'apprécier, si tu veux. J'ai eu très vite la PlayStation et finalement j'ai pas beaucoup apprécié la Super NES. J'ai eu des jeux un petit peu les jeux qui passaient à la télé que mes parents m'achetaient, quoi. J'avais Prehistoric Man, j'avais des jeux dans le genre. Et finalement j'ai jamais eu les grands classiques, quoi. Les très grands classiques. Et finalement j'ai redécouvert la Super NES il y a 2 ans et où je joue au classique, et les deux qui ont retenu mon attention, c'est Super Mario World et c'est Street Fighter 2 Turbo.
Ouais.
Parce que c'est donc le Super Mario World, c'est pour la plateforme, Pour moi, c'est peut-être le meilleur Mario qui ait jamais sorti, pour moi. Je dis bien pour moi, c'est très subjectif. Et Super Street Fighter 2, c'est plus quelque chose, pareil, de très subjectif, parce que quand j'ai redécouvert la Super Nintendo, on était une bande de potes qui j'étais dans une bande de potes qui tâtaient du pad, pour ainsi dire, à Street Fighter 2. Ils m'y ont mis, et du coup, on faisait que ça. Et du coup,
j'ai pris zéro. Oh là là,
bah, avant de savoir jouer, je mets du temps.
Ouais.
Et vous en pensez quoi de ces deux jeux?
Ça va, c'est bon choix, moi je dis bon choix, c'est honnête.
Super Mario World sans plus, je suis pas un accro de la plateforme aussi, donc c'est pour ça. Super Street Fighter, j'aimais bien, mais bon, voilà, je suis pas non plus un acharné du jeu de combat, ça dépend des périodes.
D'accord.
Mais bon jeu, bien réalisé. Et là par contre, c'était un jeu qui pouvait, justement vu qu'on parlait de vitesse tout à l'heure avec les Sonic, quand on poussait le turbo à fond, fallait s'accrocher pour suivre.
Ouais, c'est clair. Et voilà, il faut rappeler quand même que tout, même sur le site, c'est l'occasion de le rappeler, c'est que tous les tests, tout ce qu'on parle là, nos coups de cœur, nos coups de gueule et tous les tests qui paraissent sur le site, il faut bien que vous sachiez que tous les avis, et de toute façon c'est dans tous les sites de jeux vidéo pareil, ce sont des avis subjectifs. C'est un avis parmi d'autres.
Un avis personnel.
Voilà. Et on essaie à chaque fois de décrire le jeu tel qu'il est, et par exemple, je veux dire, la description du jeu étant elle-même objective, c'est-à-dire qu'un jeu qui est pas beau graphiquement, eh bien, il est pas beau graphiquement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'il sera forcément plus beau. Mais voilà, la note finale et l'engouement qu'on a pour un jeu, c'est exclusivement et forcément subjectif. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Donc, je vais demander à Moshu, quel est ton top 2 finalement? Top 2 ou top 3, si tu peux pas te décider.
Oh, bah, je vais prendre un top 3 alors.
Ah, vas-y.
Et Bomberman.
Numéro 1
Ouais, numéro 1, Bomberman. Ouais.
Ouais,
parce que c'est le fun avant tout.
Ouais, ouais.
Et
ouais.
La durée de vie, il est increvable, quoi. Du moment que t'as des potes pour jouer avec, voilà. Donc, et Final Fantasy, le 6.
D'accord.
Ah, oui.
Ouais. Tu peux pas tester.
Bonheur. Bon ben voilà, je pourrais pas le dire.
Non mais en fait, je tiens à signaler, est-ce que Final Fantasy VII est sorti en Europe?
Non.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mentionné. Parce
en
que
fait, c'est, je veux dire Final Fantasy 3 américain.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. C'est Final Fantasy VI, Jap, traduit en américain. Et ouais, il est terrible.
Ouais, ouais, c'est d'ailleurs peut-être, c'est peut-être le meilleur des Final Fantasy au final.
À mon avis, ouais.
Je pense.
Ah ouais. Ben, je vais lancer mon pavé dans la mare. Allez, j'aime bien faire ça de toute façon. Final Fantasy VI, auquel bizarrement, et oui, alors là, je vais faire mal à pas mal de gens, je trouve que la FF7 est beaucoup pompée dessus.
Ah?
Et oui. Ah oui. On se retrouve avec, pareil, une histoire un petit peu, bon. D'un côté c'est un empire, l'autre c'est plus un empire, mais sur le côté financier, voilà, avec la Chine. Un univers quand même un petit peu à la limite de entre Heroic Fantasy et Cyberpunk, parce que ben on a quand même le côté machine dans le système qui est présent. Et quelques petites caractéristiques d'ambiance, toujours un classique Cid présent. Je me demande même s'il n'y a pas un haut vent qui est présent dans le 6 en tant que vaisseau.
Non.
Je me rappelle
plus. Putain, j'ai bien un vaisseau volant.
Tu as un vaisseau
volant dans le 6 qui me
faisait penser. Et t'en as pas tous des vaisseaux volants après, donc.
Oui, mais je sais pas, il me faisait penser au vent, bizarrement. Donc ça, et fait quelques petits trucs qui me font penser, qu'on se retrouve avec un petit peu un copier-coller. Même ce, Terra, le perso principal, il me semble,
du 6.
Bizarrement, elle aussi, elle a des soucis d'identité, de mémoire. Ça me fait peut-être penser à un petit blondinet.
C'est clair.
C'est super facile en même temps comme scénario, ça. Hein. De coller un amnésique en héros.
Voilà.
Wow.
Construire le scénario au fur et à mesure, ou vous inventez tout, n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'était la petite anecdote.
Et donc en troisième, ça sera le Super Street Fighter 2, le petit dernier New Challenger, avec les quand ils avaient rajouté les quatre nouveaux persos, avec les Fury. Elle était graphiquement et tout, rien à voir. C'était quand même largement au-dessus des autres.
Ah, d'accord. Et ils ont rajouté les Furies. Ouais, c'est le premier épisode avec les Furies.
C'est le... Ouais, le premier, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le premier avec les Furies et quatre nouveaux persos. Ouais.
Et d'ailleurs, bizarrement ou pas bizarrement, grâce à la sortie de Street Fighter 4, il y a eu un gros regain d'intérêt vis-à-vis de Street Fighter 2. Parce que Street Fighter 3, c'est un petit peu une parenthèse, je trouve, personnellement. Que Street Fighter 4 rejoint plus le gameplay de Street Fighter 2 que Street Fighter 3.
On retrouve les bases, ouais. N'importe qui peut jouer et arriver à taper. Et c'est moins technique que ça l'était devenu avec Street Fighter 3, c'est beaucoup plus accessible.
Et ils ont même sorti un remix HD de Street Fighter 2 sur le PSN et l'Xbox Live.
Qui est excellent.
Ah ouais, bah forcément, c'est du mieux sans ralentissement et plus beau.
D'une beauté, ouais, c'est du dessin animé. Bon, il y a l'animation qui suit pas, mais sinon, c'est vraiment dessiné, super net, très propre, bien coloré.
D'accord.
Et ça, c'était pour le top 3, mais par contre, je mets quand même une petite mention spéciale pour Star Fox.
Ah là, la première fois.
Ah, j'avoue.
Star Fox, et puis il y avait un jeu de voiture, c'était Stunt Race FX.
FX.
Ah, voilà, ces deux-là, quand même, mention spéciale, parce que voilà, les premiers jeux en 3D, que sur Super Nintendo, il n'y avait pas vraiment de vrais jeux en 3D. Non. Là, ils avaient un petit chipset spécial, le Super FX, une puce qui mettait dans la cartouche pour permettre à la console de calculer de la 3D. Et donc Star Fox, un jeu de tir dans l'espace, vraiment super bien fait, prenant.
Très bonne musique.
C'est Star Wing.
Très bonne musique.
Starwing ouais. Ou Star Fox,
Starwing, une autre station.
Et Stunt Race FX, j'ai du mal avec celui-là, c'était un super jeu de voiture aussi, avec des véhicules bien différents, des courses de vitesse, des circuits alambiqués et tout, il était vraiment terrible.
Est-ce que je peux revenir sur mon top 2 et en faire un top 3? Si tu veux, j'ai oublié de parler, ça c'est vraiment un coup de cœur personnel, hein. Personne va partager mon point de vue. Bon, déjà il y avait Metal Gear. Metal Gear 2, qui, moi, est un grand fan de Metal Gear, mais il y a un jeu qui est passé assez inaperçu, finalement, qui s'appelle Wario Woods. Je sais pas
si... Il s'appelle
Wario
Woods. Je l'ai.
Est-ce que tu as joué?
Ouais, je l'ai, moi.
C'est un jeu d'une addiction...
J'adore.
Addiction totalement irrationnelle. Qui est sorti en 94, c'est un Tetris-like, mais on peut pas dire que c'est un Tetris du tout, il faut y avoir joué. Le but est d'aligner trois petits monstres, en fait, comme un Tetris, hein, y a des trucs qui descendent. Le but est d'aligner trois petits monstres, et de mettre une bombe pour faire péter ces monstres. Bref, c'est trop compliqué à expliquer. Wario Woods, donc les bois de Mario, les bois de Wario, c'est Wario contre Toad. C'est assez marrant, il est passé inaperçu. Il est aussi sorti sur NES, d'ailleurs. Et c'est vraiment, enfin, je conseille largement à tous ceux qui aiment les puzzle games et les trucs comme ça et les jeux addictifs d'aller jouer à ce jeu quand on sait y jouer. Je veux dire, parce que il y a quand même une grosse phase d'apprentissage, mais quand on sait y jouer, c'est jouissif à flot, quoi.
Alors là, par contre, je viens de me souvenir encore un truc, c'est.
mais ça, c'est avec la Super NES, c'est comme ça. Ouais,
là, c'est pas possible, tu peux pas zapper ça, j'en ai même deux, c'est, voilà. En fait, il y a Tetris Battle Gaiden. Ça, c'est simplement le meilleur Tetris de tous les temps.
D'accord.
La cartouche, tu peux la trouver encore, tu la trouves à 70€ en magasin, tellement le jeu, il est vraiment, mais c'est un Tetris, sauf que tu choisis un perso, de base, ils ont tous des pouvoirs différents, et dans les blocs des tétrades, là, qui tombent, il y en a certains, des fois, des blocs qui contiennent un cristal. Et quand tu fais éclater le cristal, il est comptabilisé dans une jauge. Tu peux les accumuler pour lancer des pouvoirs à l'adversaire. Après, t'as des pouvoirs pour te guérir et des pouvoirs pour pourrir l'adversaire. Et c'est un Tetris qui se joue en versus. C'est limite pire que Bomberman. C'est un truc de cinglé. Par contre, ça se joue que en 1 contre 1. Mais ça, c'est vraiment un jeu, un top du top. Le meilleur puzzle versus de tous les temps pour moi, quoi.
WarioWare se joue aussi, WarioWood se joue aussi en versus.
Ouais. Voilà. Et deuxième jeu, en fait, il faudrait voir. Alors celui-là, je le mets dans mon top, vraiment top du top. J'avais oublié, mais c'est un jeu qui est pas connu, qui est jamais sorti en dehors du Japon. C'est Super Chinese World 2. Et là-dedans, il y a de la plateforme, de la baston à la Double Dragon, de la baston à la Street Fighter, et tout ça dans un jeu de rôle à la Final Fantasy.
Je connais
pas. Sur une map avec des villages, des placements en vaisseau comme dans Final et tout, machin, mais les donjons c'est de la plateforme, où faut taper les ennemis et tout, et il y a, enfin, des passages à la Double Dragon, Street of Rage, les boss à la Street Fighter, c'est un melting pot de gameplay. Il est haut en couleur, super drôle, avec des animations de fou.
Comment
Par
il s'appelle?
Par contre, c'est tout en Jap. C'est Super Chinese World 2.
D'accord, ouais, c'est tout en Jap.
Ouais, c'est le jeu, il est tout en Jap, quoi. Mais donc, faut avoir le courage de se pencher dessus. Mais
ah, moi, je sais pas lire, je sais pas lire les kanji.
J'y repensais parce que je m'en suis débarrassé à l'époque et en fait, j'ai rechopé la cartouche il y a pas longtemps.
Ouais, ça se lâche pas.
Ah ouais.
Putain. Alors, on va passer à Malkav.
Non, bah, je fais un top 40, alors, moi.
Allez, lâche-toi. Après,
ah non, mais on va faire, non, mais de toute façon, après, on va discuter sur les jeux, qui ne sont pas dans notre top 3, mais, voilà, il y en a forcément deux ou trois qui nous ont marqué plus que l'autre, plus que d'autres.
Ouais, top 3. Je vais essayer un peu de varier les genres dans le top 3, mais ça va être extrêmement difficile.
Alors, allez, sors-le dans le top 1, allez, vas-y, dis-le allez. Le premier.
Oh, non, je le nomme le top 1, je fais roulement de tambour et tout. Hein. Bon, attends. en top 3, alors, si je devais dire pour un jeu de combat, je vire vos Street Fighter et autres trucs, là, allez, vieux gameplay, pour Killer Instinct.
Ouais.
Donc, assez... studio rare, un jeu visuellement qui arrachait pas mal, pas censuré, pas vraiment en tout cas, du moins me semble.
Pas censuré et puis d'une violence aggravée quoi, pas réaliste mais aggravée de violence.
Ouais, où vraiment on en met plein la tronche à l'adversaire, où grâce à un petit mode 7 encore, on voit un personnage aller s'écraser 50 étages plus bas après avoir chuté d'un immeuble. Oups, excuse-moi, je t'ai poussé. des fatalités, des humiliations, etc. Donc, bon gameplay, musicalement, bonne musique aussi.
Ouais.
Et puis...
des grosses digites.
Ouais, grosses digites. Et on avait système de combo et de contre relativement simple à assimiler, ce qui donne au final un bon jeu, je pense.
Ouais, les combos étaient terribles, ça montait ça des 30, 40, 50, 60 hits, 70.
Ah, ça montait jusqu'à 88 ou 90 pour certains.
Sauf si combo breaker.
Et voilà. Mais pour ça, il y a le Chatterton pour empêcher le joueur à côté de jouer, c'est pas. Ou débrancher la manette, ça marche aussi.
Ah, il était jouissif, hein. C'est clair.
Après, dans un genre un peu plus... parce que, voilà, là, je suis obligé de trancher. C'est extrêmement difficile. Dans un côté moins combat, on va dire plus dans entre le shoot et le beat'em all. Alien vs...
Alien Cube.
Super Protector Alien Rebel. Extrêmement jouissif.
Que je ne connais pas.
Bah, grosso modo, c'est le Protector 3. Il a eu plus différents noms. Tu dois peut-être le connaître sous le nom de Contra 3.
Ah, ben voilà, oui, d'accord.
Ah, mieux, peut-être comme ça.
Mais ça, c'est dur. Oh.
Alors, Contra, ouais, on dirait c'est Schwarzy et Stallone, et Protector, c'est des pattes labor. Mais sinon, c'est le même jeu.
D'accord.
Ouais. Donc on se retrouve avec un jeu très sympathique où ça tire un peu dans tous les sens, bonne difficulté. Pour arriver à le finir au-delà de normal, faut déjà commencer à bien taquiner du pad. Je trouve en tout cas.
Ouais, un bon jeu, bonne difficulté Capcom.
Mmh,
t'arraches les cheveux,
voilà.
Poignet et tu les manges.
Ah. Je vois qu'il y a un connaisseur. Enfin pour le top 1. je vais dire le Secret of Mana.
Ouais, voilà.
Et autant
on emporte le vin
sur un plan. Attends, je te quitte.
tu sors.
Autant sur les Européens, nous n'avons le droit que à la version européenne, c'est-à-dire le Secret of Mana. Qui s'avère être déjà le deuxième opus en fait de la
Seiken Densetsu 2.
Voilà. Or, moi, là, celui que je souhaite aduler, même si je ne l'ai pas finalement véritablement sur Super Nintendo, mais en émulation, c'est le Seiken Densetsu 3. Qui est... oui, qui est le RPG, le RPG console. On se retrouve avec un jeu où on a... peut-être pas pour la première fois, parce qu'il y a eu d'autres jeux quand même qui l'ont fait, mais on se retrouve avec un défilement jour-nuit, des ennemis qui changent justement en fonction de l'horaire de la journée, un système de compétences, un système de classe, d'évolution de classe, 6 personnages, 3 à choisir parmi les 6, sachant qu'en fonction du choix, on évolue vers 3 scénarios différents, et visuellement et musicalement, un niveau équivalent voire supérieur au Secret of Mana qu'on a eu pour à peu près tout le monde en Europe. Et on se retrouve avec un jeu qui est, oui, absolument fabuleux.
Je vais te persécuter pour avoir la ROM, quoi, simplement, mais bon.
Oui. J'accepte chèque et carte bleue.
Mais je mettrai aussi Seiken Densetsu 2 dans mon top, sans hésiter, hein, parce que de toute façon, ouais, durée de vie, jouabilité, intérêt, beauté, réalisation, tout, et puis jouable en multi, quoi. Ça, c'est.
Il était aussi faisable pour le Seiken 3, d'ailleurs, même chose.
Et donc, multi-tap, encore une fois, en action.
Si j'ai bien compris, il y avait plusieurs Secret of Mana en gros. Et en fait, est-ce que c'est comme un Final Fantasy, c'est-à-dire est-ce que c'est des épisodes qui ne se ressemblent pas?
Il y a une indépendance, il y a rarement de suite directe.
D'accord.
Je crois qu'il y en a eu peut-être une ou deux de suite directe et encore. Et il faut savoir, enfin, à mon avis personnel en tout cas, une fois passé le Mystic Quest de la Game Boy, qui s'avère être en fait le premier opus. Le Secret of Mana Super Nintendo, le Seiken Densetsu 3, il y a eu toute une ribambelle de titres qui ont été sortis à coup de Legend of Mana, Legend of qui vont pas à la cheville, quoi.
Ah d'accord.
Ils rendent pas du tout hommage à la série, quoi.
Non, vraiment pas.
Par contre, dans ton top, tu mets pas un petit Chrono Trigger?
Ben, j'étais obligé de choisir. Sinon, je mets Chrono Trigger, Illusion of Time, Zelda Link to the Past.
Illusion of Time, il est un cran en dessous pour moi.
Moi, j'ai une petite objection à faire.
Oui, mais Illusion of Time, je le trouve sympathique quand même. Ne serait-ce que pour la fin du jeu, je suis désolé, mais une fin qui dure 30 minutes, je l'ai pas vu souvent.
Metal Gear Solid 4. 45 minutes la cinématique de fait. Mais bon, PlayStation 3. J'aurais voulu émettre une objection très subjective. C'est que finalement, moi, il y a un jeu que tout le monde adule et trouve le meilleur de la série, que je n'ai pas accroché. Je dis pas je dis pas que je n'accrocherai jamais, mais que pour l'instant, j'y arrive pas. C'est Link to the Past. Je n'y arrive pas. C'est dingue.
Ça, toi.
Ah non, mais j'en ai honte parce que tous les autres Zelda, je les torche, même ceux de NES, celui de 64, les deux de 64, c'est pire que je les torche, je les ai hachés, la cartouche, je l'ai encadré et tout. Mais j'arrive pas, Link to the Past, j'y suis pour l'instant, j'y suis pas arrivé.
T'aimes pas maltraiter les poulets?
Non. c'est peut-être aussi parce que, comme je t'ai dit, j'ai redécouvert la console il y a 2 ans, et il y a beaucoup de jeux qui m'ont plu, mais... Link to the Past, finalement, pour moi, c'est du déjà vu, entre guillemets, et j'arrive peut-être pas. C'est peut-être ça.
Oui, alors à ce moment-là, si tu pars sur du déjà vu sur les Zelda, tu peux mettre tous dans le même panier.
Ouais, hein, mais justement, parce
toujours
que
un tu sens vois, de l'arbre, de la terre, un du feu, un de l'eau, etc.
Ouais,
toujours une évolution.
J'ai commencé avec Zelda Ocarina of Time. Après, je les ai tous fait dans l'ordre. J'ai fait Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, et
Twilight Princess. Pas Zelda.
Bon,
c'est une merde.
Non, faux, il est bien. et j'ai fait Twilight Princess. Une fois que j'ai fait ça, j'ai redécouvert le Zelda 1 et 2, donc que j'ai plutôt pris dans ma tête comme des légendes rétro, si tu veux, l'origine de toute une saga, même si le 2, il est très... Et finalement, Link to the Past est un peu au milieu de nulle part, tu vois, ni entre la légende, la création d'une saga, ni entre... pour moi, ce qui avait été un des meilleurs jeux de tous les temps, Ocarina of Time, et j'arrive pas à le positionner, j'arrive pas à accrocher. C'est peut-être un souci personnel, Je dis pas, il est grandiose ce jeu pour
moi.
Ah
oui, c'est un
mais
souci.
Il pose la base de Carina au sol, en fait.
Avec son Provence, ça va être un souci personnel.
Moi, Zelda, je le mets dans le top aussi. Hein.
Non, mais on pourra jamais Zelda. Finir le top. C'est infinissable. Il y a du Super Mario Kart. Comment ne pas le mettre dans le top?
Ah, du Castlevania, du F-Zero.
Du F-Zero.
Je peux pas le mettre dans le top, le Super Mario Kart. Mais j'ai une explication pour ça.
Explique.
C'est que, en fait, c'est mon jeu qui joue. C'est jamais moi qui gagne. Alors,
ouais, et ça, ça a jamais changé, hein.
Oh, attends. Celui de Wii, c'est encore pire.
C'est bien pire. C'est bien, bien pire. Ça s'empire, en fait, d'épisode en épisode.
C'est clair.
La tricherie de Mario Kart et l'humiliation des gens de plus tu joues bien, plus tu vas prendre cher.
C'est clair.
Ça s'empire.
Carrément.
Bonjour, alors c'est mon jeu, c'est moi qui y joue, mais non, c'est mes potes qui viennent, qui jouent une fois de temps en temps ou quoi, qui me latent complètement dessus.
Les mecs, il faut les forcer, ils ont pas envie de jouer, ils te font Mario Kart, ça pue, c'est pour les nuls.
C'est clair,
ils
ouais.
En plus, tu connais tous les circuits, et ça pue, on peut rien faire, ouais d'accord.
Ouais, tu mets
la manette en main, et en fait, ça sert à rien de jouer, quoi, après.
Voilà. Donc, ça fait mal.
C'est clair, non mais c'était insupportable, t'as raison.
Ah, oh, j'aurais un jeu aussi que je pourrais essayer de rajouter à mon top, mais à lui, c'est un coup de cœur personnel qui n'a forcément pas plu à tout le monde. Parce que, au niveau, il y a quelques petits trucs où il est léger, il faut avouer. Genre, par exemple, graphiquement, c'est vrai qu'il est à la fois bien, mais trop simple. Peu de travail sur les fonds d'écran, le premier plan est pas trop mal travaillé. Il s'agit du Super Metroid.
Ah, tu l'as dans le top du top, je le mets.
Ouais.
Ben moi, c'est pour l'avoir tordu dans tous les sens, pour l'avoir fini relativement rapidement, même si c'est pas à hauteur des records faits par certains sur des vidéos où ils torchent le jeu en 50 minutes. Mais moi, j'étais quand même assez content de l'avoir terminé en 2h20, quoi, à 100%. Donc ça, et puis c'est le jeu avec lequel j'ai réussi à découvrir un moyen de faire planter ma Super Nintendo systématiquement. Ouais.
C'est rare.
C'est un de mes jeux préférés de la console aussi. Il a une ambiance aussi bien. L'adéquation des graphismes et des musiques, des bruitages, ça te donne une ambiance de cinglé.
Ouais.
Et ce qu'ils ont fait en fait. Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y.
Ce jeu-là, c'était, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la première cartouche 32 mégas. Parce qu'au fur et à mesure, au début, les jeux, c'était sur 8 mégas. Ensuite, ils se sont mis à faire des 16 mégas, des jeux de plus en plus gros. 16 mégas, ça a duré très longtemps. Ça, c'était la première cartouche 32 mégas. Et en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas tout mis dans les graphismes, quoi.
Ouais,
ils
mais je crois vraiment... que 32 mégas, justement, c'est dû, si je dis pas de bêtises, ce serait pas dû à l'intro, justement.
Possible.
Avec la petite phase de dialogue où justement il y a une phrase en anglais. Une
phrase digite, ouais, qui est super propre et tout.
Et ouais.
Et bon, c'est pas ça qui prend autant, mais il y avait besoin des 32 mégas, c'est clair. Et sans les 32 mégas, ils auraient peut-être pas fait cette digite, mais surtout, ça leur a permis de faire une grande, grande map, un univers vraiment grand, qu'on voit qu'ils ont pas tout mis dans des quelques graphismes et tout. Ils sont vraiment attachés à faire quelque chose de gros, quoi.
Finalement. Premier plan bien, mais sur les fonds, on sent que le travail est plus léger, quoi. C'est moins poussé sur les fonds, mais premier plan, plutôt nickel. Bonne animation aussi, parce qu'il y a quand même des passages de vitesse à partir du moment où on commence à avoir le déplacement accéléré. Oui, ça va quand même relativement.
Trouve que les Metroid Prime qui sont sortis, malgré qu'on ait passé à un FPS, ça a très bien gardé l'esprit, moi, je trouve.
Bah moi j'ai beaucoup aimé la trilogie. Je sais que j'ai un collègue qui a énormément apprécié le Super Metroid et qui n'a pas du tout accroché à la trilogie.
Ah le Super, c'est bizarre. Là ils vont ressortir Other M, Metroid Other M, qui renoue un petit peu avec ce qu'on faisait sur Super NES. Sachant que
développé par la Team Ninja.
C'est ça, Team Ninja.
Oui.
Sachant que il y a Super Metroid, si je dis pas de bêtises, était ressorti sur Game Boy Advance. Si je dis pas de bêtises.
Non, c'était pas le même. C'était d'accord. Metroid Fusion sur Game Boy Advance.
Ah, c'est ça, pardon, ouais, je me trompe, exact. Pardon.
Le Fusion et le Zero Mission.
Qui était bien. Voilà. Fusion qui était bien. Moi, je l'ai
fait. Les deux étaient excellents.
Les deux très très bien.
Ensuite, donc bon, c'est clair, la Super Nintendo, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir finalement de la Super Nintendo? La phrase de la fin, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir?
10 ans de ma vie. Voilà, point de barre.
10 ans de ta vie.
Oui.
Et toi, Mouchou?
Il y a de ça, pareil, mais c'est une console de légende, quoi. Ouais.
C'est clair. La NES a, grâce à Nintendo, on a connu la culture vidéoludique de masse finalement, parce que la NES était extrêmement bien implantée au Japon et finalement était bien implantée en Europe et aux États-Unis aussi. Mais la Super NES a permis l'expatriation de cette culture de Nintendo, d'après moi. Et je pense que on peut pas faire de l'histoire en si, tu vois, c'est bête de faire s'il y avait pas eu ça, tout ça. Mais c'est vrai que s'il y avait pas eu la Super NES, on aurait été triste.
Oui. Ouais, on aurait perdu l'occasion des premières brouilles avec les parents parce que ça fait 8 heures d'affilée qu'on est devant l'écran, voilà, et qu'on peut lâcher le pad.
C'est ça.
Ce genre de choses, par exemple.
Quoi qu'on pouvait enregistrer sur la quasi-totalité des jeux Super NES. Chose qu'on pouvait pas forcément sur Mega Drive, d'ailleurs.
Ouais.
Voilà.
Oui, non, ceux là-dessus, ils se sont bien débrouillés.
Voilà. Bah écoutez, on va finir sur ça. Moi, c'était quand même un débat très passionné. Ça, c'est...
Je l'ai ressorti, moi. J'ai ressorti ma petite boîte où elle est rangée, ma toute petite, mon bébé.
Mon précieux.
Complètement.
Mon précieux.
J'invite tout le monde à aller jouer à F-Zero, à Metroid, à Mario, à Wario Woods, à Secret of Mana. D'ailleurs, Secret of Mana qui paraîtra bientôt en test sur le site.
Oui.
Laisse-moi
bosser, bordel.
Hein?
Laisse-moi bosser.
Avec aussi Super Mario Kart qui va arriver aussi. Voilà, ce sera les deux tests Super NES du mois de mai.
Super Mario Kart, il a atterri sur WiiWare il y a pas longtemps.
D'accord.
Si les possesseurs de Wii veulent se le choper.
Ouais, ouais, c'est clair, carrément.
S'ils veulent pas, eh ben, ils ont tort. Alors.
Ouais. F-Zero, c'était surtout à la version de la Super Nintendo, parce que les versions d'après, posaient problème sur le plan, comment dire, digestif. Ça allait un peu trop vite et un peu trop dans tous les sens.
À la Wipeout.
Non, à la Vomito surtout.
À la Kitoff, quoi.
Voilà.
Ça va. Bah écoutez, moi je vous laisse et je laisse aussi les auditeurs. J'espère que ça leur a plu. En tout cas, nous, on s'est bien régalé. Ça fait plaisir d'avoir un débat passionné, comme je l'ai dit. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne continuation et je vous dis jouez à la Super NES. Jouez. Voilà. Achetez-la vous. Ça coûte 25€ aujourd'hui, une Super NES. Qu'est-ce que c'est, 25€ pour 10 ans de légende? Qu'est-ce que c'est? Rien.
Ouais, essaye de me l'acheter pour 25€, je t'envoie bouler, moi.
C'est clair. Bon, voilà, je vous laisse, et ben, voilà, jouez. Allez, ciao.
Ciao.
Bye.
Yop, le débat des gamers c'est fini, c'était cool. Yop.
Ouais, c'était cool, c'était bien, je reviens. Ouais.